Radio Cité Genève.
Genève Internationale. Epiphane Monfaux.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce numéro de Genève Internationale, nous allons échanger avec Joseph Deiss, économiste et ancien président de la Confédération Suisse, qui explore dans son dernier livre le concept de rupture au pluriel en tant que phénomène clé de l'évolution humaine. L'ouvrage est paru aux éditions Slatkin et l'auteur, à travers une analyse approfondie, retrace les grandes ruptures historiques qui ont façonné notre monde depuis le XVIIIe siècle, marquées par des avancées démographiques, scientifiques et industrielles, mais aussi par les premiers signes de la crise écologique. Bonjour Joseph Deiss.
Bonjour.
Vous êtes économiste, conseiller fédéral de 1999 à 2006 et ancien président de la Confédération Suisse en 2004 et de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York en 2010-2011 et récent auteur de Rupture, plaidoyer pour une dynamique de la paix paru aux éditions Slatkin, sujet donc de notre entretien. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire un livre sur le concept de rupture au pluriel dans l'évolution de l'humanité?
D'abord, ce qui m'a incité à écrire ce livre, ce sont des événements récents qui, pour moi, ont constitué des changements de paradigme, on peut dire, dans la façon de gérer les relations entre nations. C'était l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en particulier, l'Ukraine qui est un membre des Nations Unies, membre fondateur même, en passant, et puis aussi le 7 octobre en Israël et Gaza, et ce qui s'en est suivi dans la bande de Gaza et au Proche-Orient tout court. J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait là d'une cassure par rapport à l'élan quand même positif qui s'était engagé après la Deuxième Guerre mondiale avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de Genève de 1949, de la création d'un Conseil des droits de l'homme ou d'une Cour pénale internationale. Bref, on avait le sentiment que, tout en étant toujours imparfait, le monde progressait dans la bonne direction. Et là, il y a eu des actes et aussi des paroles, des justifications qui m'ont interpellé, qui m'ont, même comme beaucoup de gens dans mon entourage, plongé dans le désarroi par rapport à toutes ces valeurs que nous pensions progresser et défendre. Et puis, dans une deuxième dimension, de par mes origines d'économiste, mais aussi d'homme politique, j'ai poussé un peu plus loin la recherche pour constater que finalement, nous étions sur une grande rupture depuis le siècle des Lumières. C'est au fond à partir de 1750 environ.
18e siècle.
À partir du 18e siècle, 1750. Hein. Donc à partir de ce moment-là, on l'appelle le siècle des Lumières, on peut observer qu'il y a eu vraiment une rupture, mais cette fois positive, de l'humanité, dans les domaines les plus divers. La démographie, c'est à ce moment-là que l'espérance de vie a vraiment commencé à s'accroître, à monter, et par conséquent à provoquer l'accroissement démographique que nous avons connu. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la révolution industrielle, la première, et qui a propulsé nos économies vers un niveau qui permet aujourd'hui d'atteindre un bien-être planétaire pour beaucoup de monde. On aurait les moyens de le faire pour tous. Le domaine de la technologie qui commence aussi à cette époque avec certaines innovations importantes, mais qui ont connu aussi une accélération au XXe siècle. Déclenchement du réchauffement climatique, ça commence il y a 250 ans aussi à peu près avec la révolution industrielle. On a eu des ruptures sur le plan juridique puisqu'on est sorti du Moyen-Âge, on a créé l'État-nation, on a voulu des relations pacifiques entre les nations, et rupture morale dans le sens que on a mis en place toute une série de témoins qui sont des témoins pour la bonne entente au sein des hommes, au lieu de parler simplement comme les églises à l'époque de l'amour du prochain, par exemple, pour les chrétiens. Nous parlons aujourd'hui des droits de l'homme et je parle de l'idée que nous aurions, au fond, mis en place tout ce qu'il faut pour que le monde puisse vivre heureux. Et voilà que l'on retombe dans le mécanisme des guerres. On en a eu, Première Guerre mondiale, la guerre franco-allemande, la Première Guerre mondiale, la deuxième. Des millions de morts, 80 millions durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je me dis, mais pourquoi n'avons-nous pas su aujourd'hui encore tirer les leçons de ce qu'est la guerre et de l'avantage que représente la paix? Donc, mon mobile global, finalement, et de faire appel à tous les hommes, à toutes les femmes, qu'ils soient au gouvernement, aux affaires ou tout simplement des personnes privées. Il nous faut parler de paix et non pas de sécurité, de guerre, de sanctions, d'armes, etc. Voilà le motif de ce bouquin.
On va aller droit au but. Dans votre livre, vous appelez à une mobilisation pour la paix. Que recommandez-vous concrètement pour amorcer cette dynamique pacifique ?
Lorsque je suis arrivé au terme de mon analyse des ruptures démographiques, économiques, etc., dans le but aussi de faire mieux comprendre aux gens, dans le public, ce que l'humanité, au fond, a vécu au cours de ces deux, trois derniers siècles, et pour leur donner quelques éléments de réponse à leurs interrogations actuelles, j'ai constaté aussi que c'était très bien de comprendre les mécanismes. Mais maintenant, les gens vont me dire, mais que faire? Parce que beaucoup me disaient aussi, je me sens impuissant, j'aimerais qu'il y ait la paix, je n'ai pas l'intention ni le fait de lancer une bombe ou quoi que ce soit. Tout ce qui arrive est contre mes convictions. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, c'est vrai que même moi, qui suis un ancien de la politique, qui a eu des fonctions importantes, je me sens désemparé par rapport à cette situation. Et je me suis dit finalement, il faut commencer au moins avec ce que nous avons de possible, à savoir de parler de paix, de demander de la paix, de nous faire expliquer la paix, de refuser qu'on parle uniquement de guerre, etc. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais il s'agit de créer ce que l'on nous dit quotidiennement à propos de la violence. On parle quotidiennement de l'escalade de la violence. C'est-à-dire un système, un mécanisme qui, semble-t-il, est inarrêtable vers la violence. Pourquoi ne pourrions-nous pas créer une escalade de la paix, c'est-à-dire un mouvement qui alimente de plus en plus de volontés qui veulent la paix et qui finissent par parvenir aux chefs de la politique pour leur dire « mais nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas ce que vous faites en ce moment, nous voulons le contraire ». J'étais hier à la radio romande et puis mon maire m'avait demandé de mettre un peu de musique entre les propos, et j'avais proposé de passer la chanson « Quand les hommes vivront d'amour » qu'avaient chanté Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Mignon en 1974 sur la plaine d'Abraham à Québec, devant 100 000 spectateurs. Et la radio a repassé ce disque authentique du moment même où le chant a été fait devant ces 100 000 personnes. Et ils ont laissé, après la chanson, le son sur le public. Et il y a eu là-bas comme un feu qui progressait dans un élan et des applaudissements qui allaient en croissant. Bref, pendant une minute, ces 100 000 personnes se sont finalement adonnées à crier, à applaudir, pour dire oui, c'est exactement ce que l'on veut, puisque la chanson dit, si les hommes vivaient d'amour, il n'y aurait plus de guerre, les soldats seraient des troubadours. Donc, je crois que la grande majorité de la planète veut la paix et on ne comprend pas pourquoi il n'est pas possible de déclencher une telle dynamique.
Pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront l'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les troubadours, et nous serons mon frère, les hommes qui ont d'amour.
Vous avez évoqué il y a un court instant la crise climatique ou autre. Pensez-vous que l'humanité est suffisamment préparée pour affronter les défis modernes tels que justement la crise climatique ou la montée des nationalismes?
Oui, je le dis d'une manière très claire à divers égards. Tout d'abord, pour ce qui est de la démographie, du nombre d'humains que nous sommes, des migrations qui résultent de situations de pénurie. On nous dit que des millions d'êtres humains ont toujours faim, ce qui est inacceptable, puisque selon les chiffres, non pas que j'invente, mais selon les données que nous fournissent les Nations Unies, la FAO et d'autres organisations qui s'occupent de ça, et même l'OCDE, on nous dit qu'il n'est pas normal qu'il y ait de la faim puisqu'il y a plus de nourriture disponible que de personnes qui pourraient la consommer. Donc nous avons de quoi nourrir 10 milliards de personnes et ça ne se fait pas. Donc, encore une fois, à votre question, je réponds. Oui, nous avons les moyens pour nourrir, en tout cas, les 8 milliards d'humains que nous sommes. Deuxième question, avons-nous les moyens de régler la question climatique? Je suis convaincu que nous avons les technologies nécessaires, nous avons les moyens nécessaires pour le faire, mais nous n'avons pas la volonté de le faire. Et cela pour toutes sortes de raisons. On vient d'avoir un référendum en Suisse sur la question de la protection des espèces et la biodiversité, et le peuple a refusé cette initiative, estimant que l'on faisait déjà suffisamment. Toute mesure que nous allons prendre pour résoudre le problème de l'environnement sera coûteuse. Si nous devons changer d'une énergie qui est basée sur les fossiles vers des énergies uniquement renouvelables, cela va nous demander un effort considérable.
Exactement.
Cela va toucher évidemment aussi les intérêts de tous les pays producteurs de pétrole, etc. Donc, il y a des changements fondamentaux à faire et toutes les réunions COP qui se sont déjà déroulées ont fait avancer la chose, mais nous le voyons, même dans des pays qui apparemment sont relativement acquis à la question, comme la Suisse, il est très difficile de faire passer ces politiques. Donc, ce qu'il nous faut là aussi, ce n'est pas des moyens supplémentaires, mais la volonté et une entente entre pays, parce que dès qu'il y a ces réunions COP, chaque pays estime que c'est son voisin qui doit faire davantage et pas lui-même. Donc, il faut que nous parvenions à saisir la menace qui pèse sur la planète et que nous parvenions à nous entendre pour mener une politique qui résolve la question. Il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je place mon livre aussi dans un contexte beaucoup plus vaste que les deux ou trois siècles que nous venons de traverser et qui nous sont bien en mémoire, avec les millions d'années où la planète vivait sans êtres humains et se tournait tout rond sans problème. Donc je dis toujours, la planète n'a pas besoin de l'être humain, et l'être humain a besoin de la planète s'il veut survivre. Donc il faut que cette prise de conscience passe et ne touche pas seulement des mesures qui finalement n'auront qu'une importance secondaire ou qui ne suffisent pas à résoudre le problème comme on le fait un peu partout. Et la même chose est valable pour la guerre, pour la paix, et la paix serait pour tout le monde gagnante. C'est ça qui est aussi difficile à comprendre, pourquoi l'humanité n'est pas capable de saisir un bien, la paix finalement c'est aussi un bien, un bien-être, saisir ce bien alors qu'il ne coûte rien finalement à le produire puisqu'il suffit d'arrêter les conflits. Et puis d'un autre côté, ce bien est gagnant pour tout le monde, tous peuvent profiter de cela. Et je me demande effectivement comment est-il possible de faire passer ce message. Alors plutôt que de manifester d'une manière incongrue, j'ai dit pour moi la seule possibilité d'agir que je sens tangible immédiatement, c'est au moins de coucher sur le papier les idées que j'ai et donc de prendre la plume pour réveiller les gens, que ce soit les dirigeants ou le peuple.
Dans le magazine Genève International sur Radio Cité Genève, nous évoquons Rupture, plaidoyer pour une dynamique de la paix de Joseph Daïs, paru aux éditions Slatkin. Pour en revenir toujours à cet ouvrage, quel rôle jouent les institutions internationales comme l'ONU dans la gestion de ces ruptures et êtes-vous favorable à une réforme des Nations Unies?
J'ai émis, bien sûr, toute une série de critiques, mais je veux commencer avec le positif. Et j'ai été édifié par le fait que la semaine écoulée, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, finalement, par consensus, il n'y a donc pas de pays qui aurait voté contre, adopté par consensus, ce pacte pour un futur meilleur, je n'ai pas le nom exact technique en tête, mais notre présidente de la Confédération, Madame Amherd, aussi, à la tribune, a salué cette démarche qui comporte des dizaines de mesures à prendre pour progresser dans la direction que nous souhaitons tous, je l'espère. Mais il est clair que les Nations Unies aurait en soi déjà mis en place tout ce qu'il faut pour résoudre les problèmes, à savoir la charte, puisque l'article 2 de la charte est un pacte mondial de non-agression. Lorsque l'article 2 dit que chaque membre respecte l'intégrité souveraine de chacun des autres membres, si tout le monde s'y tient, il n'y a plus de guerre. Il n'y aurait donc plus besoin non plus de pays neutres qui sont neutres par rapport à un conflit, puisque tout le monde respecterait l'existence des autres membres. Et l'ONU a déjà cette grande qualité d'être presque universelle, presque planétaire, avec 193 membres, mais il reste des questions, dont notamment cette difficile question du Proche-Orient, de la Palestine et d'Israël en particulier. L'ONU, souvent, me dit-on, quand j'étais président, et les gens qui me rencontrent me disent « mais l'ONU ne fait rien ». Et moi, je répondais toujours que l'ONU, comme telle, n'est qu'un concept abstrait, car l'ONU, c'est une organisation qui réunit les États. Donc l'ONU, ce sont ces 193 membres des Nations Unies, et si vous avez le sentiment que cette organisation ne fait rien, c'est pas parce qu'elle, elle ne fait rien, mais c'est parce que ses membres, ces 193 pays membres, ne font rien ou ne parviennent pas à faire suffisamment pour résoudre les problèmes. C'est un peu comme pour la Suisse qui a 26 cantons et je dis toujours, je l'expliquais par exemple à ceux de New York qui venaient aussi des pays membres me dire l'ONU ne fait rien, on devrait faire plus. Je dis regardez la Suisse, notre premier article de la Constitution, il dit que la Suisse est formée par les cantons de Zurich, Berne, etc. Et la Constitution énumère les 26 cantons. Cela veut dire, ça a l'air banal, mais cela veut dire que la Suisse elle-même, il y a eu d'ailleurs des fois des provocations en utilisant cette formule, la Suisse comme telle n'existe pas. S'il n'y avait pas les cantons, eh bien, il n'y aurait pas de Suisse, puisque ce sont les 26 cantons qui forment le pays. Exactement. Et par conséquent, pour que l'on puisse dire que la Suisse fait quelque chose, il faut que les cantons fassent quelque chose directement, ou en se mettant ensemble sous la coupole fédérale pour avoir des actions communes. C'est la même chose au niveau des Nations Unies. Il faut la bonne volonté de tous les membres pour que l'organisation puisse réussir. Malheureusement, elle est freinée dans son action par toute une série d'éléments. L'un de ceux qui est, à mon avis, erreur ou faute congénitale, qui est le droit de veto au Conseil de sécurité, et on le voit encore une fois, que ce soit pour l'Ukraine, que ce soit pour le Proche-Orient, lorsque le Conseil de sécurité est bloqué, il est extrêmement difficile aux Nations Unies de faire quelque chose, et ce sont d'autres canaux, d'autres voies qui sont utilisées ou essayées, mais au fond, on n'aurait pas besoin de cela. Alors on crée des groupements spéciaux, n'est-ce pas, le G7, le G8, le G20, le BRICS, etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin de créer quelque chose de nouveau. Si tout le monde joue le jeu de l'Assemblée générale, où chacun a une voix, les choses pourraient être réglées déjà maintenant.
Eh bien, dans ces conditions, comment voyez-vous l'avenir du multilatéralisme dans un monde de plus en plus fragmenté avec ce que vous venez de citer à l'instant?
On ne peut pas dire que le monde soit de plus en plus fragmenté. Au contraire, depuis 50 ans maintenant, depuis 45, ça fait même plus que 50 ans, 70 ans, depuis 70 ans, il y a eu une montée du multilatéralisme. Donc, sur la longue distance, on peut dire que depuis maintenant, bientôt trois quarts de siècle, le multilatéralisme a fait de nombreux progrès. Mais il n'est pas encore arrivé au bout de son exercice ou développement possible. À part la charte, il y a eu la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 48 déjà. Quand on me dit que l'ONU ne fait rien, je dis, mais écoutez, il n'en a fallu que deux ans pour avoir cette charte qui est la base aujourd'hui pour chaque individu d'avoir un peu d'espoir l'humanité. En 49, c'est la Suisse, qui n'était pas encore membre des Nations Unies, qui a réuni les pays pour créer les conventions ou refaire les conventions de Genève, qui sont aujourd'hui au centre du débat. Il y a eu par la suite la création de la Cour internationale de justice par le statut de Rome. On a créé un conseil des droits de l'homme qui est situé, localisé à Genève. Bref, il y a eu de nombreux éléments qui ont permis d'améliorer. Mais nous ne sommes pas encore dans un état de perfection et c'est pourquoi il reste un effort de faire. Mais on ne peut pas dire que le multilatéralisme soit sur le déclin. Si c'est le cas, ça peut l'être ponctuellement parce qu'il y a des éléments qui bloquent les progrès. Je vous donne un exemple. On critique souvent le droit de veto au Conseil de sécurité. Je viens de le faire moi-même. Mais dans beaucoup d'autres organisations, on est bloqué encore beaucoup plus parce qu'il y a un veto général. Si vous prenez l'OMC, qui est une organisation qui a permis à l'économie mondiale de progresser, surtout à aider les pays en développement à participer à l'économie mondiale et à améliorer le bien-être de leur population. Au sein de l'OMC, règne le principe de l'unanimité. Ça veut dire que toute décision de l'OMC doit être acceptée par l'ensemble des 164 membres. Vous vous rendez compte la gageur.
Exactement.
D'obtenir le oui pour une mesure précise par tous ses membres. Et ça veut dire que chacun des membres individuellement, en quelque sorte, a le droit de veto. C'est pas toujours facile de s'opposer seul contre tous, mais enfin, il y a cette possibilité. Or, l'OMC est sorti du GATT ou de l'accord général des tarifs en 1964, je crois, ou en tout cas le début des années 60. Et on avait pratiqué au sein du GATT, puisque la conférence de la Havane après la Deuxième Guerre mondiale qui voulait remettre, oui, c'était 48. Plutôt le GATT, à la conférence de la Havane, on a dit on n'arrive pas à mettre en place une organisation mondiale de libre commerce, mais nous introduisons au moins la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire que chaque pays s'engageait à accorder à tous les pays du GATT les conditions du pays qu'il traitait le mieux. Et par conséquent, chaque fois qu'un pays accordait un avantage à un partenaire commercial, cet avantage s'étendait à tous les autres. Et petit à petit, ça progressait comme une espèce d'épidémie qui a libéralisé le commerce mondial. Et c'est ensuite qu'on a dit, maintenant on veut faire une organisation plus solide, on a fait l'OMC, et on constate maintenant que l'OMC est en partie bloqué parce qu'il y a toujours un veto national qui intervient. Tout cela, je l'explique ou je le dis pour montrer que il existe probablement des méthodes pour rendre encore meilleur le fonctionnement du multilatéralisme, mais d'un autre côté, il faut aussi ne pas chaque fois vouloir réinventer le système international qui existe déjà, mais il vaut mieux dire qu'il faut le faire fonctionner beaucoup mieux. Ancien président de l'Assemblée générale, j'ai constaté que dans le nouveau pacte qui vient d'être accepté et qui a aussi reçu le soutien des anciens présidents de l'Assemblée générale, puisque nous nous réunissons nous deux fois par année, l'un des points est au fond un evergreen de l'ONU. Chaque année, le nouveau président dit « nous devons rendre l'Assemblée générale plus efficace, il faut améliorer le fonctionnement de l'Assemblée générale ». Ça fait 70 ans qu'on le dit et ça fait 70 ans qu'on peut toujours encore faire mieux. Donc, il reste du travail, mais ne disons pas que rien n'a été fait. Le grand risque du moment, avec ces guerres et ces nouvelles disputes interétatiques, est que l'on risque effectivement de jeter tout ça par terre et de se retrouver 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière par rapport à tout ce qu'on a réussi à faire progresser depuis le début du dernier siècle, c'est-à-dire depuis la création de l'organisation qui a été initiée par le président américain Wilson, mais qui finalement n'a pas été acceptée par les États-Unis. C'est là à ça que remonte la Société des Nations, pour la nommer. La Société des Nations a été le premier grand projet et ce sont les Américains qui ont lancé cette idée du multilatéralisme après la Première Guerre mondiale. Wilson est même venu à Paris, à la conférence de Paris. C'est lui qui a voulu que dans ce pacte Genève soit désigné comme siège. C'est pourquoi à Genève, on a donné le nom de Wilson à un des quais, au bord du lac. Et cette Société des Nations a quand même réussi à réunir, je crois, une soixantaine de pays au bout d'un moment, mais il y a eu 36 problèmes. Le premier fut, celui pour Wilson, c'est qu'il est rentré aux États-Unis et le Congrès américain a refusé de ratifier et de faire participer les Américains. Donc la Société des Nations a fonctionné sans les Américains jusqu'à son échec en 1939 ou 40. Et le pauvre Wilson, il s'est consolé avec le prix Nobel de la paix, mais il n'était pas reçu comme prophète dans son pays.
Pour mettre un terme à notre entretien, dans la gestion des crises contemporaines, quelle est votre opinion sur le rôle de la morale et de l'éthique ?
Les Nations Unies ne sont pas seulement devenues un centre de la politique internationale à travers toutes les résolutions, conventions et autres principes qui ont été élaborés, je pense évidemment à la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi à beaucoup d'autres éléments. Les Nations Unies sont aussi devenues une autorité morale planétaire, à savoir que la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, peut être acceptée par tous les humains, quelle que soit leur religion ou leurs orientations ou convictions. Je cite d'ailleurs mon bouquin aussi, la position du Vatican, qui est un observateur au sein des Nations Unies, Exactement. Et qui, après la création des Nations Unies, se pose la question, mais cette Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un peu la même chose que ce que nous disons dans l'Église catholique, au niveau de l'amour du prochain, du respect, de la dignité humaine, etc. Et c'est Jean XXIII qui, par son encyclique Pacem in Terris, a reconnu d'une manière officielle, dans un texte qui était adressé non seulement aux catholiques, mais à tous les habitants de la planète, qu'aux yeux de l'Église catholique, par exemple, il n'y avait aucune incompatibilité entre la Déclaration des droits de l'homme à l'ONU ou des principes de l'ONU et les principes moraux de l'Église catholique. Ceci pour dire que les Nations Unies peuvent être le noyau, non pas pour la vie religieuse qui doit rester individuelle, personnelle et libre, mais pour un noyau moral qui est acceptable pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme. Moi, ça me fait chaque fois un peu un frisson dans le dos de fierté, mais aussi d'émotion lorsque je prononce cette phrase, parce que c'est une phrase qui doit et peut être valable pour tout le monde. C'est pourquoi, effectivement, vous posez la bonne question, les Nations Unies sont aussi une autorité morale pour l'humanité.
Merci à vous, Joseph Dice. Vous êtes économiste et ancien conseiller fédéral de 1999 à 2006 et ancien président de la Confédération Suisse en 2004 et de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York en 2010-2011. Vous venez de faire paraître votre nouvel ouvrage, Rupture au pluriel, plaidoyer pour une dynamique de la paix, paru aux éditions Slatkin. C'est un grand plaisir d'échanger avec vous sur votre ouvrage, mais aussi sur l'actualité internationale. Merci également à toutes et à tous, et je vous souhaite une très belle suite de journée à l'écoute de Radio Cité Genève 92.2 FM.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Etifan Amanfo.